europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles. Victor Ouvrard.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe en ce 8 mai, date commémorative de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était il y a 71 ans très exactement, une date hautement symbolique puisque c'est sur les décombres de 5 années de folie meurtrière que petit à petit l'Union européenne s'est construite. Avec 3 idées fondatrices, l'Europe doit devenir un continent de paix, de prospérité, où l'état de droit sera partout respecté. Pendant environ 60 ans, la construction européenne a été plébiscitée par les Européens. Les 6 pays fondateurs sont devenus 28. Les marchandises, les citoyens, les capitaux circulent désormais librement de Tallinn à Lisbonne et d'Helsinki à Athènes. L'Union est devenue un grand marché de 500 millions d'individus. Les étudiants adorent Erasmus qui leur permet d'étudier partout en Europe. Et je pourrais multiplier les exemples. Mais voilà, les crises financières et économiques ont généré une crise de confiance d'un grand nombre d'Européens envers les bienfaits de l'Union européenne. Face au chômage de masse, aux migrations, aux menaces terroristes, l'Europe est-elle le premier problème ou la solution? Éternelle question que nous allons aborder avec notre grand témoin, Michel Barnier. Bonjour Michel Barnier.
Bonjour et bonjour à toutes et tous qui nous écoutent sur RFI, parfois de très loin.
Toujours de très loin, de Paris à très loin. Vous avez été ministre à plusieurs reprises, commissaire européen 2 fois, en charge de la politique régionale, puis du marché intérieur et des services. À mes côtés, pour vous interroger, Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International. Bonjour Éric.
Bonjour, bonjour Michel Barnier.
Bonjour Éric Scholl.
Michel Barnier, vous êtes aujourd'hui le conseiller pour la politique de défense et de sécurité européenne du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Qui menace ou qu'est-ce qui menace l'Europe aujourd'hui? Je vous pose en plus cette question ce 8 mai.
Ce qui menace, c'est clairement la défiance ou l'indifférence des citoyens, puisque la construction européenne est une construction politique, démocratique, fondée sur la volonté des peuples, des États qui se sont mis ensemble sans vouloir fusionner. Il faut bien préciser cela à tous ceux qui s'inquiètent et qui posent souvent de vraies questions et expriment de vrais doutes. Nous ne sommes pas en train de faire, même si ça a été le rêve d'un Schuman à un moment donné, un État fédéral. Il n'y a pas un peuple européen.
Les
il n'y a
États-Unis
pas une nation européenne.
Non, ne sont pas d'actualité.
Je préfère retenir la formule de Jacques Delors, une fédération d'États-nations respectant l'identité nationale, la différence. Il y a 24 langues dans l'Union européenne, au moins. Il y a des cultures, des traditions, des organisations différentes. Et donc, il s'agit pas, c'est le général de Gaulle qui disait, il faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. On veut pas broyer les peuples, on veut pas supprimer ou effacer les identités nationales. Chacun de ces peuples, la France, les autres, tient à sa différence. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est assez impardonnable d'ailleurs que les hommes, les dirigeants, les responsables politiques n'expliquent pas davantage comment ça fonctionne. Et pourquoi c'est assez complexe? Parce que cette complexité de ces 28 pays, 28 nations qui mutualisent leur destin, qui partagent des politiques, parfois qui partagent une partie de leur souveraineté, ça, si c'est simple, c'est uniforme. Ce que nous faisons, c'est pas une Europe uniforme, c'est une Europe qui veut être unie. Voilà, je le dis en ce 8 mai, jour commémoratif de la capitulation allemande, de la fin de cette tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle, c'est Victor Hugo qui parlait des guerres entre Européens comme de guerres civiles. 60 millions de morts. Et c'est sur les décombres, les camps de concentration qu'on vient d'ouvrir, que quelques hommes politiques, pourquoi il ne faut pas désespérer de la politique et des hommes et des femmes qui l'animent, des vrais hommes d'État, deux Français, Schuman, Robert Schuman et Jean Monnet, mais Konrad Adenauer, Di Gasperi et d'autres, se mettent ensemble et disent « il ne faut pas que ça recommence ». Il dit ça le 9 mai 1950, dans la fameuse déclaration du Salon de l'Horloge au Quai d'Orsay. D'ailleurs, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères en 2004, ma première décision symbolique a été de mettre dans le fameux Salon de l'Horloge, à côté de cette grande cheminée que tout le monde voit quand on va au Quai d'Orsay, la photo de Robert Schuman debout, parlant, et à ses côtés, à sa droite, Jean Monnet. Qu'est-ce qu'ils font pour que ça ne recommence pas? Comme ça avait recommencé en 1918, malgré les bons sentiments.
Et malgré la SDN.
Il crée une communauté d'intérêts. Il ne faut pas seulement avoir envie d'être ensemble, en paix, en démocratie. Il faut avoir besoin, il faut avoir intérêt à être ensemble. Et ça, c'est la communauté du charbon et de l'acier, c'est l'esprit de la CECA, et c'est quelques années plus tard, le traité de Rome, le marché commun, puis des politiques communes, le marché unique, la monnaie unique, créer ce ciment. Et je veux rappeler, puisque nous sommes le 8 mai et demain le 9 mai, que la fête de l'Europe, enfin la commémoration ou le souvenir de cette grande déclaration d'hommes d'État dont ces deux Français, que les promesses faites ont été tenues, notamment cette promesse d'être dans une communauté de droit, en démocratie, en paix, que la stabilité du continent européen a été préservée grâce à cette construction, pas à pas, comme le disait Robert Schuman, réalisation concrète après réalisation concrète. Maintenant, ce projet est aujourd'hui mis en cause, il est fragile, à la suite de toutes ces crises et de la crise de confiance ou de défiance que vous avez évoquée, et c'est ça dont nous devons parler.
Alors justement, quand je vous posais, qu'est-ce qui menace aujourd'hui l'Europe? Est-ce que la principale menace, c'est le terrorisme aujourd'hui?
C'est une des menaces qui fait que, comme l'a dit le président de la République française ou le Premier ministre, nous sommes dans un état de guerre contre des gens qui veulent détruire nos sociétés et qui les attaquent au cœur, en s'appuyant d'ailleurs sur des citoyens européens, comme on l'a vu dans les derniers attentats de Paris ou de Bruxelles. C'est une des menaces qu'il faut traiter à la source, et pas seulement par des bombardements ou par la répression ou par des répliques militaires, mais aussi par le développement, par la croissance, par un modèle culturel que l'on défend, que l'on promeut, y compris dans les pays du Maghreb ou d'Afrique, où il y a un modèle culturel différent de celui de l'islam radical et extrémiste. Et donc, oui, c'est une des menaces, mais ce n'est pas la seule. Le désordre financier mondial, le changement climatique, l'agressivité à l'est de la Russie, l'instabilité partout autour de nous, au sud et au sud-est, dans le Moyen-Orient, la pauvreté, qui est d'ailleurs souvent la cause ou la conséquence de toutes ces faiblesses ou de toutes ces instabilités. La question qu'il faut se poser, que moi je pose comme patriote français, fier d'être français et en même temps passionnément européen, c'est comment on se défend contre ces menaces? Comment on relève ces défis? Comment on fait face à tous ces challenges? C'est une question que je pose d'ailleurs dans toutes les conférences qu'on me demande de faire un peu partout. Comment on se défend? Comment on se protège? Comment on fait valoir nos intérêts et nos valeurs? Est-ce que c'est chacun pour soi, replié derrière je ne sais quelle ligne Maginot ou derrière frontière nationale, chacun pour soi, chacun chez soi, ou est-ce que c'est ensemble? Et moi, je pense que quand on regarde le monde tel qu'il est, et ceux qui nous écoutent un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie ou en Amérique, le savent mieux que d'autres, ou parfois mieux même que les dirigeants politiques français, quand on regarde le monde tel qu'il est, les yeux ouverts, lucidement, on voit bien que dans ce monde qui est de plus en plus dangereux, instable, fragile, on s'en sort pas. Si on est chacun chez soi replié au niveau européen, aucun pays européen, même l'Allemagne le plus puissant, n'est capable d'être dans les 20 ou 30 ans qui viennent tout seul à la table des grandes puissances, à côté du président américain, du président ou du premier ministre russe, du président chinois, du premier ministre indien. Tous ces pays que je viens de citer, ils ont une taille, une démographie, une superficie, des ressources naturelles suffisantes. Ce sont des États-continents. Ils sont déjà à la table, définitivement assis à la table de ceux qui vont diriger ou organiser l'ordre ou le désordre du monde. Aucun pays européen n'est capable de l'être tout seul. Donc où nous sommes à cette table en tant qu'Union européenne et nous faisons valoir nos intérêts sans complexe, d'ailleurs personne n'a de complexe à défendre ses intérêts, nos valeurs, notre modèle, nous participons à un nouvel ordre mondial, ou bien nous sommes spectateurs, sous-traitants, sous influence. Moi, j'ai pas envie que l'Europe et la France soient sous-traitantes et sous influence.
Éric Scholl, courrier international.
Alors justement, monsieur Barnier, on le rappelait tout à l'heure, vous êtes conseiller spécial pour la politique de défense et de sécurité européenne. Vous faisiez allusion à cette agressivité côté russe. C'est vrai qu'à l'est de l'Europe, les tensions n'ont jamais été aussi vives et les incidents se multiplient, notamment du côté de la mer Baltique. Où en est-on de cette défense européenne, une défense finalement que réclament à corps et à cri les États-Unis? On a encore entendu récemment Barack Obama sur le sujet. Est-ce que les Européens en font assez?
Vous faites bien, Éric Scholl, de rappeler le grand discours qu'a prononcé récemment Barack Obama sur le sol européen. Il disait d'ailleurs, peut-être faut-il que quelqu'un de l'extérieur, comme moi, Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, vienne vous dire tous les progrès que vous avez faits. et que vous devriez regarder et dont vous devriez être fier. Et les États-Unis nous disent aussi, prenez vos responsabilités. Nous ne pourrons pas toujours être ce parapluie ou avoir des passagers clandestins dans la sécurité ou la stabilité du monde. Nous devons partager le fardeau et la responsabilité. Et voilà ce que pense exactement le président Jean-Claude Juncker, qui m'a demandé de travailler à ses côtés dans cette mission de conseiller spécial, pour que la Commission européenne, à sa place, dans le cadre de ses compétences, qui ne peut pas tout faire, mais qui peut faire beaucoup de choses, participe à cette nouvelle mutualisation des initiatives, des programmes, des investissements dans le domaine de la recherche, des capacités militaires, qu'on n'en reste pas à cette faiblesse actuelle. Je regardais les chiffres, comparés d'ailleurs à ceux des États-Unis, des efforts militaires européens et américains. Nous avons aujourd'hui en Europe 154 systèmes d'armes différents. Les Américains en ont 27. Nous avons 37 types de véhicules de transport de troupes différents. Les Américains en ont 9. Nous avons 12 types d'avions ravitailleurs. Les Américains en ont 4. Quand nous consacrons 51% de nos dépenses militaires à des dépenses de personnel, les Américains n'en consacrent que 33% et le reste est investi, comme on devrait le faire, dans la recherche, dans l'innovation, dans la technologie. Donc c'est une faiblesse, au moment même où nous n'avons plus beaucoup d'argent dans nos budgets nationaux, que d'être aussi fragmenté, aussi dispersé, parfois concurrent. Vous savez qu'actuellement, il y a 6 pays européens dans l'Union qui lance en ce moment un programme de frégates, chacun à côté de l'autre. Combien de temps ça va durer de cette duplication, cette dispersion, cette fragmentation? Donc je pense qu'il y a un nouvel état d'esprit. Je pense que la nouvelle situation géopolitique que nous vivons, que nous affrontons, nous oblige à agir. C'est ça le pressentiment du président Juncker et ce à quoi il veut contribuer. Parce qu'il y a une situation géopolitique très nouvelle. C'est cette linéarité, cette absence de frontières entre la sécurité intérieure, à l'intérieur même de nos sociétés, de l'Union européenne, et les menaces ou les défis ou les conflits extérieurs. Il n'y a plus de frontières. Et donc, on voit bien que, et sur l'Est, et au Sud-Est, et au Sud, il y a des menaces qui s'interpénètrent, qui sont absolument liées les unes avec les autres et qui exigent des réponses communes. Donc, ce à quoi travaille maintenant, parlons de manière concrète, l'Union européenne, notamment sous l'autorité de Mme Mogherini, la haute représentante des ministres des Affaires étrangères et qui est aussi vice-présidente de la Commission, Federica Mogherini, va présenter au mois de juin une nouvelle stratégie globale pour la sécurité européenne. J'espère que dans la foulée, les dirigeants européens décideront de faire ce que j'ai appelé un livre blanc, c'est-à-dire un exercice de suivi pour décliner l'ambition politique, ce nouveau constat des dangers et des menaces et des exigences de sécurité en une stratégie, en une ambition militaire, et qu'on décidera ensemble de renforcer cette mutualisation.
Michel Barnier, vous évoquiez les 6 frégates que les Européens sont en train de lancer, et ça fait évidemment beaucoup. On est peut-être unis dans trop de diversité, mais finalement, la question première, c'est qu'est-ce que les Européens ont à défendre commun, en tout cas la perception qu'ils ont quand on voit la montée du nationalisme un peu partout et notamment en Europe centrale et orientale, quand on parle de la Hongrie de Viktor Orban, de la Pologne de Jaroslaw Kaczynski ou encore de l'Autriche qui aura peut-être dans quelques jours un président issu des rangs de l'extrême droite, avec chaque fois l'idée que si on était tout seul, si on était recroquevillé sur notre frontière, ça irait beaucoup mieux. Qu'est-ce que finalement les Européens ont à défendre en commun, en tout cas la perception qu'ils ont d'eux-mêmes?
Vous savez, vous parlez de l'Autriche que je connais bien, de la Pologne, de la Hongrie, on pourrait parler du Royaume-Uni ou de la France, partout, quelles que soient les critiques ou les questions qu'on se pose à propos de Bruxelles, partout il y a le sentiment, dans les peuples, j'en suis sûr, que face à toutes ces menaces, le terrorisme chez nous, les guerres à l'extérieur, avec toutes leurs conséquences tragiques de flux de migrants, de réfugiés, d'hommes et de femmes qui souffrent et qui veulent simplement vivre ou survivre en partant, on ne s'en sort pas tout seul. Si on parle strictement de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la guerre qu'il faut mener contre ceux qui nous mènent la guerre contre nous, le sentiment populaire, c'est qu'il vaut mieux être ensemble. Ça, je suis sûr de cela, quel que soit le pays où vous êtes. Mais naturellement, il y a d'autres sentiments qui viennent parfois effacer celui-ci. La sécurité économique, la sécurité écologique, ces peurs auxquelles on ne répond pas ou pas correctement font que En effet, le premier sentiment aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux faire le dos rond, se replier derrière ses frontières, se protéger, se rassurer. Et moi, je pense au contraire, et je pense que ça justifie un débat comme celui que nous conduisons en ce moment, que ensemble, on est plus fort. Que si on veut être libre, si on veut garder notre identité, notre autonomie, notre souveraineté en tant que citoyens nationaux et en tant qu'Européens, il faut être ensemble, sinon on est sous-traitant, on est foutu, voilà ce que je pense.
Éric Scholl.
Alors vous nous dites il faut être ensemble. En même temps, on voit bien, si on prend le problème des migrations, des migrants, auxquels vous faisiez allusion, que l'attitude des pays d'Europe centrale et orientale qui considèrent finalement que cette question des migrants, c'est d'abord un problème allemand et pas un problème européen, cette attitude-là ne correspond pas à ce être ensemble. Est-ce que ça vous inspire quelle réflexion, cette mise à côté par les pays de l'Est du problème des migrants?
Mais c'est pas un problème allemand, c'est un problème auquel tous les pays européens sont
confrontés. C'est pas ce que dit Orban.
Et auquel ils ont une réponse différente. Certains veulent se replier, fermer leurs frontières. D'autres, comme l'Allemagne, ont ouvert les portes et doivent gérer presque 1 million d'immigrants qui sont arrivés en Allemagne, 2 000 par jour, à un certain moment, 2 000 par jour. Et puis d'autres qui ont des positions équilibrées, comme les Français. Moi, je pense que dans ce domaine comme dans d'autres, la réponse ne peut être qu'européenne. Et que l'on doit faire ce qu'on a écrit dans les traités, une politique d'immigration, une politique d'asile, une politique visa qui soit commune. Mais dans ce domaine, Éric Scholl, on est encore une fois en défensive. Faute d'avoir été au bout des politiques que l'on a choisi d'engager. À force de faire toujours ce qui est le plus facile et de ne pas aller au bout de ce qui est difficile, on se trouve en défensive, le dos au mur. C'est pas la première fois. Là, cette crise de la migration démontre ce que je viens de vous dire. On a fait Schengen, la liberté de circulation était inscrite, y compris dans l'acte unique du temps de Jacques Delors. On a fait Schengen pour avoir des frontières extérieures communes. Je pense que c'est une bonne chose. Supprimer les frontières intérieures, on peut passer de France en Belgique sans contrôle. Mais la condition à cette liberté de circulation à l'intérieur de l'Europe, c'est que les frontières extérieures soient de vraies frontières et pas des frontières passoires, que l'on contrôle toutes celles et tous ceux qui rentrent et qui sortent, qu'on prenne leurs empreintes, qu'on sache, comme aux États-Unis.
Mais jusqu'alors, tous ces pays, donc on a fait le contrôle des frontières, c'était notre
oui,
domaine de compétence.
Oui,
il y a le refus de laisser
accorder un peu de souveraineté. Des pays, on a fait confiance à des pays qui ont ces frontières extérieures, qui sont nos frontières. La Grèce n'est pas le seul pays concerné, mais qui n'ont pas géré ses frontières correctement. Et voilà pourquoi la proposition...
Donc l'Europe n'a pas été assez... L'Union européenne n'a pas été assez coercitive?
Elle n'a pas été assez vigilante. Elle n'a pas été assez proactive pour imposer à ces pays, en temps voulu, un vrai contrôle des frontières qui étaient les nôtres et pas seulement les leurs. Et la proposition qu'a faite Jean-Claude Juncker et qui n'est pas encore complètement mise en œuvre de garde-côte et de garde-frontières communes, c'est-à-dire une sorte de garde fédérale, j'emploie ce mot sans en avoir peur, que nous assumions ensemble, si un pays est trop faible ou pas assez organisé pour le faire lui-même en notre nom, qu'on le fasse avec lui.
Encore faut-il qu'il accepte qu'il ne soit pas suffisamment compétent pour contrôler ses propres frontières.
Mais on voit bien que cette idée proposée par la Commission européenne de garde-frontières, de garde-côtes, fait son chemin. Je disais, ce n'est pas la première fois qu'on fait malheureusement la preuve de prendre de bonnes décisions, ne pas aller jusqu'au bout. La crise de migration en est la démonstration, mais je peux rappeler une autre crise dont les conséquences sont encore là, qui est la crise financière de 2008, où on a vu qu'avec l'euro, bonne décision, redonner de la souveraineté monétaire à l'Europe qui n'en avait plus vraiment à force d'avoir trop de petites monnaies nationales, dominées par la monnaie chinoise ou la monnaie américaine naturellement. Nous créons l'euro. Mais Jacques Delors, que j'ai déjà cité, l'a dit avec justesse, on peut pas avoir l'union monétaire et la désunion économique, la désunion budgétaire, la concurrence fiscale. Donc si on fait l'euro, il faut aller au bout. On n'a pas eu le courage de le faire jusqu'à maintenant et la crise a révélé cette faiblesse en ayant une vraie politique économique commune, des bases fiscales communes, notamment pour la consommation ou pour les entreprises. Voilà les sujets qui sont devant nous et qui vont exiger un nouvel état d'esprit commun, du courage politique. Ça, on ne peut pas l'écrire dans les traités, mais moi je le dis.
On va faire une courte pause, Michel Barnier, sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, avant de vous retrouver. Juste le temps de prendre connaissance des dernières infos. À tout de suite.
Appelez-nous, exprimez.
Europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Раскруча Европы.
Ставродромы της Европис.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel, Victor Ouvrard.
Bonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Pendant environ 60 ans, la construction européenne a été plébiscitée par les Européens. Les 6 pays fondateurs sont devenus 28, les marchandises, les citoyens, les capitaux circulent désormais librement de Tallinn à Lisbonne et d'Helsinki à Athènes. L'Union est devenue un grand marché de 500 millions d'individus. Les étudiants adorent Erasmus, qui leur permet d'étudier partout en Europe, et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Mais voilà, les crises financières et économiques ont généré une crise de confiance d'un grand nombre d'Européens envers les bienfaits de l'Union européenne. Alors face au chômage de masse, aux migrations, aux menaces terroristes, l'Europe est-elle le problème ou la solution? Éternelle question que nous allons continuer d'aborder avec notre grand témoin Michel Barnier, qui est aujourd'hui conseiller pour la politique de défense et de sécurité européenne auprès du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Alors, parmi les chantiers de la Commission européenne, il y a celui de la politique fiscale de l'Union européenne, dont les enjeux sont explicités brillamment par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, lors de son discours sur l'état de l'Union, c'était en septembre dernier.
En ce qui concerne la politique fiscale, les politiques fiscales, la désunion fiscale de l'Europe, la Commission aura l'occasion de faire en sorte que le principe de l'échange des informations en matière d'impôts directs soit rapidement adopté par le Conseil. Je reste à mes convictions que j'avais à l'âge de 17-18 ans et dont certains pensent que je les avais quittées provisoirement, que les bénéfices doivent être imposés dans les pays où ils sont réalisés. La Commission fera en sorte que ce principe de bon sens trouve application partout en Europe.
Alors quand on écoute Jean-Claude Juncker, Michel Barnier, il y a pour le moins un paradoxe, c'est qu'en ce moment au Luxembourg, il y a un Français qui s'appelle Antoine Deltour, il est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'il a rendu public une liste d'entreprises et surtout des multinationales qui, grâce à un arrangement avec l'État luxembourgeois, ne payaient pas d'impôts dans les États européens où elles exerçaient leur activité. On parle là de centaines de millions d'euros. Alors au passage, le ministre de l'économie et des finances de l'époque du Luxembourg s'appelait Jean-Claude Juncker, il est aujourd'hui président de la Commission européenne. Antoine Deltour risque, lui, 10 ans de prison. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce paradoxe ?
Cela a été dit par d'autres. Moi, je pense que ces lanceurs d'alerte qui dénoncent des faiblesses de la législation ou parfois des manipulations jouent un rôle utile, qu'il faut d'ailleurs les protéger.
Le sont-ils vraiment ?
S'agissant du désordre ou des désordres de la finance mondiale, qui sont encore là, il y a encore beaucoup de trous noirs, beaucoup de banques qui travaillent dans l'ombre, qu'on appelle le shadow banking.
Et notamment en Europe.
Oui, et partout dans le monde, et des Européens qui travaillent dans d'autres régions du monde. La règle ou la clé, comme d'ailleurs vient de le dire Jean-Claude Juncker, qui est extrêmement actif sur ce sujet aujourd'hui comme président de la Commission.
Avec et qui a été très laxiste quand il était ministre des Finances.
Je ne vais pas porter de jugement sur le passé. Je pense que chaque pays était dans cette liberté qui lui était donnée d'avoir une autonomie fiscale. Je pense que ce temps-là doit évoluer, qu'on est bien dans le temps où il faut coordonner, harmoniser la fiscalité, notamment celle qui touche, je l'ai dit tout à l'heure, les consommateurs et les entreprises. Prenons un exemple concret. Est-ce qu'on va longtemps avoir 28 bases différentes de l'impôt sur les sociétés en Europe ? Chaque pays qui a la même monnaie a une base différente sur l'impôt sur les sociétés. La Commission européenne précédente a mis sur la table des ministres une proposition pour harmoniser les bases. Je ne parle pas des taux. Je pense qu'il y a encore des trous noirs, il y a encore trop de paradis fiscaux. Une des réponses, c'est la transparence. J'ai d'ailleurs, comme commissaire européen, présenté une loi qui a été adoptée qui impose à toutes les banques européennes, où qu'elles travaillent dans le monde, à dire exactement ce qu'elles payent, où et à qui elle paye.
Et que votre successeur à la tête de la Commission sur le même mandat que vous est en train de détricoter.
Non, je ne crois pas. Je ne crois
Jonathan Hill, un Britannique issu de la City.
Non, je ne crois pas qu'on soit juste de lui faire un procès d'intention. Le commissaire chargé de la fiscalité, M. Moscovici, sous le soutien et avec le soutien du président Juncker, a l'intention de compléter cette obligation de transparence qui existe pour les banques à toutes les grandes entreprises européennes où qu'elles travaillent.
Éric Scholl, Courrier International.
Un petit mot sur la situation économique. On constate une amélioration de la conjoncture un petit peu partout en Europe. On constate les pays, alors sous l'effet à la fois de la conjoncture, mais aussi sous l'effet de l'assainissement des politiques budgétaires. Et on constate un redressement des comptes publics. Est-ce que le rythme pris vous semble suffisant? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Quel regard vous portez aujourd'hui sur les comptes publics dans l'Union européenne et en France notamment?
Il y a une amélioration progressive, y compris dans les pays qui étaient les plus fragiles en raison de leur endettement, qui ont fait de très gros efforts, avec des conséquences politiques d'ailleurs, en Grèce, en Espagne, au Portugal, on l'a vu, mais qui ont exigé du courage. Dans chaque pays où il fallait mettre de l'ordre dans les finances nationales, avant de mettre de l'ordre dans l'organisation financière et économique européenne, et en même temps d'ailleurs, chaque pays a fait son travail. Et je souhaite que notre pays, la France, continue de le faire en évitant de faire des dépenses durables en profitant d'un rebond conjoncturel. Hein. Parce que toutes les dépenses excessives que l'on fait aujourd'hui, quand elles sont dans la durée, des dettes d'aujourd'hui, ce sont des impôts pour nos enfants. Et je trouve pas très responsable que l'on laisse ainsi une facture ou qu'on tire des chèques en blanc sur les générations futures.
Vous faites allusion aux annonces qui ont été faites récemment par l'exécutif.
Je recommande que dans mon pays, l'effort, et j'ai entendu le ministre des Finances, M. Sapin, le confirmer, continue sur la trajectoire de réduction pour arriver l'année prochaine au-dessous des 3% de déficit, parce que on ne fait pas de la croissance sur des dettes. On ne crée pas des emplois sur des dettes de fonctionnement. Si c'était le cas, ça se saurait. Et la France n'aurait pas le taux de chômage qu'elle a aujourd'hui, contrairement à l'Allemagne ou à d'autres pays du nord de l'Europe. Donc, moi, je suis favorable à des endettements quand ils sont sains, quand on investit par emprunt dans la croissance future, dans l'innovation, dans la jeunesse, dans l'éducation, dans la recherche, mais pas pour payer notre fonctionnement d'aujourd'hui. Donc, c'est une question de responsabilité. Donc, je suis heureux qu'on prenne un autre chemin, qu'on retrouve de la confiance mutuelle, c'est ça qui manquait le plus. Et maintenant, sur ce chemin-là, le moment arrivera, avec cette nouvelle confiance, de poursuivre les efforts sur l'union bancaire que j'ai engagée, d'aller plus loin, de relancer l'intégration et la coordination des politiques économiques et fiscales à l'intérieur de la zone euro, peut-être aussi de prendre des initiatives nouvelles. Je pense qu'un jour, il faudra un trésor européen. Je pense que cette confiance étant revenue entre nous, européens, notamment dans la zone euro, le moment viendra de faire des emprunts en commun pour investir dans l'avenir, pour investir dans la recherche.
De partager des dettes aussi éventuellement, mais d'une manière générale, au cours des dernières commissions, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop rigoureux, trop tatillon sur la rigueur budgétaire et finalement un peu laxiste sur l'état de droit? Des pays comme la Pologne, comme la Hongrie, mettent en cause la liberté de la presse, la liberté des juges, c'est des valeurs fondamentales de l'Union européenne, et on laisse passer, on est par contre très rigoureux à 3,1, 3,2 de déficit budgétaire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, un paradoxe?
L'un n'empêche pas l'autre. Les pays qui sont dans l'Union européenne et qui y sont volontairement s'engagent à respecter les droits de l'homme, les droits de la femme, la liberté de presse, l'indépendance de la justice. Personne n'est exonéré du respect de ses valeurs et de ses règles. En tout cas, il y a beaucoup de vigilance sur cette question et je crois que les dirigeants de ces pays doivent faire attention et seraient bien inspirés de faire attention. Et ça n'est pas contradictoire avec le fait de respecter les règles économiques et de construire un nouveau modèle économique et social européen. Je pense en effet que dans certains cas, et notamment en Grèce, on est allé trop vite et on a demandé trop, notamment à certaines partie de la population. Je pense que l'effort au tout début, dans une crise absolument inédite qui s'est produite en 2008-2009, au point que la zone euro a failli exploser, permettez-moi de vous le rappeler, quand j'allais à Washington ou à Pékin comme commissaire européen chargé de la régulation financière, chargé de mettre en œuvre le règlement et les règles du G20, la seule question qu'on me posait, c'était: est-ce que vous allez passer la fin de l'année avec l'euro? On ne pose plus cette question parce que la stabilité est revenue grâce au travail que nous avons fait sur la coordination de la zone euro et sur la régulation financière. Mais je pense qu'on est allé trop fort et trop vite dans certains cas, notamment en Grèce.
Éric Scholl, Courrier International.
Justement, si l'Union européenne est contestée aujourd'hui par un grand nombre d'Européens, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'elle est trop orientée vers ce côté techno-financier et finalement pas assez proche des préoccupations des gens? Je vous donnerai un exemple. en Suède, un sondage récent vient de montrer que le sentiment pro-européen se dégradait fortement. Il est passé en l'espace de 6 mois de 59% à 39%.
Il y a un mouvement de cette nature à peu près partout, et donc c'est ça qui m'inquiète. Quand je répondais à votre toute première question, qu'est-ce qui se menace sur l'Europe, ma réponse a été la défiance, la méfiance ou l'indifférence des citoyens qu'il faut reconquérir, et en faisant à nouveau la preuve de l'Europe. Et pas seulement en effet sur les questions économiques. Maintenant, le chômage, la désespérance, les souffrances sociales si nombreuses, notamment depuis la crise financière, sont la cause de tout. Hein. Si les jeunes des banlieues ont du travail, ils seront sans doute moins l'objet de tentations ou de manipulations de la part de groupes extrémistes. Si les gens ne subissent pas cette souffrance sociale, ce sentiment d'être abandonné dans notre pays, ils seront moins tentés par des votes de protestation ou des votes extrêmes. Donc tout se tient, et la clé pour le gouvernement français d'aujourd'hui et de demain, pour tous les gouvernements européens, c'est de rebâtir un modèle de croissance. Cette croissance, elle sera différente. Elle devra davantage tenir compte des risques écologiques et du changement climatique. Elle doit être plus sobre, moins consommatrice d'espace et de ressources naturelles. Mais cette croissance peut revenir. Elle revient en ce moment, timidement, parfois fortement dans certains pays qui ont su se réformer plus tôt que d'autres, au nord de l'Europe ou en Allemagne, mais elle est en train de revenir. Et je pense, comme vous, que l'Europe ne doit pas seulement être un supermarché, que la politique européenne ne doit pas concerner seulement la technique, les normes ou l'économie, qu'elle doit être davantage liée à la sécurité écologique, la sécurité tout court, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de la défense, mais aussi la culture. Je serais favorable à ce qu'on prenne deux initiatives dans les temps qui viennent concernant un investissement, un emprunt commun des Européens sur l'avenir, sur la recherche, la technologie, les universités, faire que l'Europe parle au cœur des gens. Voilà un des enjeux des temps qui viennent.
Alors, un petit retour sur la croissance. Le TTIP, le TTIP, le traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis en vue d'établir une grande zone de libre-échange est mal parti. François Hollande a déclaré qu'en l'état actuel, la France ne le signerait pas. C'est une bonne nouvelle ou pas ?
Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? On n'est pas du tout au bout de cette négociation, même si on a défriché pas mal de chapitres.
Et on a l'impression que c'est très très mal parti.
Je pense que supprimer des barrières protectionnistes, créer davantage de synergie entre les deux grandes économies du monde, que sont le marché unique européen d'un côté et le marché des États-Unis d'Amérique de l'autre, ça peut et ça doit produire de la croissance, des progrès, un progrès mutuel et réciproque. Je pense toujours cela, mais jamais je n'ai approuvé cette négociation et je n'en approuverai pas du tout, à titre personnel, la conclusion, si elle devait remettre en cause, par exemple, nos règles de sécurité alimentaire. Les Américains ont des pratiques qui ne sont pas les nôtres. Le poulet chloré, le bœuf aux hormones, n'a aucune raison de les accepter chez nous, même à travers des produits importés. Jamais je n'accepterai non plus une conclusion de ces négociations si elles devaient remettre en cause les standards ou les règles de notre sécurité écologique, les standards environnementaux. Donc voilà des lignes rouges. Le président de la République française a rappelé ces lignes rouges. Pour l'instant, on n'est pas là. Là, c'est la commissaire chargée de cette négociation fait un bon travail. Elle le fait d'ailleurs de manière très transparente, en mettant sur la table tous les documents de négociation.
Ça, c'est grâce à Greenpeace qui les diffuse.
Oui,
mais pas juste grâce à Cécilia Malmström.
Cécilia Malmström, elle est là à ce poste depuis maintenant moins de 2 ans. Donc elle a pris cette mesure. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant venant de sa part, puisqu'elle est originaire de Suède, où on a l'habitude de la transparence. Je pense qu'on gagne à dire les choses, à les expliquer. Je reste persuadé que cette négociation transatlantique, si elle aboutit à un accord équilibré, par exemple dans les marchés publics, les Américains n'ont pas ouvert sur la protection des...
Ils n'ont pas vraiment l'intention de le faire.
Et bien, s'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'accord. Voilà ce que je peux dire. S'il n'y a pas une réciprocité et un résultat équilibré, il n'y aura pas d'accord. Et on restera comme on est aujourd'hui.
Éric Scholl, Courrier International.
De manière plus générale, Monsieur Barnier, on constate que la mondialisation est aujourd'hui très critiquée, pas uniquement par la société civile, elle l'est aussi maintenant dans les élites, les mêmes élites qui la prônaient et qui en étaient les héros il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. L'ancien secrétaire au Trésor, Larry Summers, par exemple, reconnaît aujourd'hui que la mondialisation n'a pas tenu toutes ces promesses, en particulier à l'égard des classes moyennes. Est-ce que vous comprenez ces critiques aujourd'hui ?
Mais évidemment, je les comprends. Et d'ailleurs, je les ai faites moi-même, ces critiques, lorsque, arrivant à la Commission européenne, j'ai dit on doit en finir avec ce temps de l'ultralibéralisme, de cette croyance insupportable de la dérégulation généralisée ou de l'autorégulation, ce sentiment que le commerce, les échanges peuvent régler tous les problèmes, sans règles, sans gouvernance mondiale. J'ai demandé au président de la Commission à cette époque, M. Barroso, qu'on en revienne à l'économie sociale de marché, qu'on avait oublié, y compris à Bruxelles, pendant trop d'années. C'est pas la mondialisation, elle est là. On va pas faire l'autruche et se mettre la tête dans le sable. Il faut regarder le monde tel qu'il est. Les échanges sont là, avec ce qu'ils apportent de progrès. La démocratie qui est revenue dans toute l'Europe, ou pratiquement toute l'Europe, en Amérique latine, qui progresse en Afrique. L'une des leçons que nous avons tirées au niveau mondial, grâce au G20, grâce à l'impulsion du président français et de la chancelière allemande et de la Commission à l'époque et avec le président Obama, a été de recréer un cadre de régulation pour remettre de l'ordre, de la transparence dans ces marchés financiers, notamment les produits dérivés, remettre des règles de responsabilité, remettre un peu de morale ou d'éthique là où elles avaient disparu. Donc ne mettons pas en cause la mondialisation, c'est un fait, mais mettons de l'ordre dans cette mondialisation, faisons des règles, et puis enfin, je pense à un continent que j'aime et que j'admire, qui est l'Afrique, où il y a à la fois tant de problèmes et tant de potentiel, et où d'autres pays très pauvres. Il faut aussi que l'on en finisse avec des règles financières qui sont celles que j'ai dites, de l'ultralibéralisme, qui ont fait beaucoup de dégâts. L'Afrique se nourrira, il faut qu'elle se nourrisse comme en Caraïbes, un pays que j'aime, qui est Haïti, si on lui permet, contrairement à certaines règles de la Banque mondiale ou de FMI, de préserver sa souveraineté alimentaire, de retrouver une agriculture de production locale qu'on a dans le grand vent libéral qui s'est imposé au lendemain des années 90, qu'on a supprimé. Donc il faut recréer certaines protections, encourager cette production vivrière pour que ces pays qui souffrent de la faim et d'où partent beaucoup de gens par la force comme immigrés retrouvent une capacité de se nourrir.
Carrefour de l'Europe, grand témoin sur RFI.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Michel Barnier, qui est aujourd'hui conseiller pour la politique de défense et de sécurité européenne auprès du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Michel Barnier, il y a un sujet d'actualité que nous n'avons pas encore évoqué, c'est évidemment le Brexit. Dans un peu plus d'un mois, les Britanniques vont décider, ce sera le 23 juin très exactement, si oui ou non ils vont rester dans l'Union européenne. Alors, si on résume la situation, ils quittent l'Union européenne, c'est une mauvaise nouvelle parce que l'Union européenne sera déstabilisée. Ils restent, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus parce qu'ils sont tellement handicapés la marge de l'Union européenne qu'on ne peut pas, on ne pourrait pas regarder leur départ. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que ce serait une très mauvaise nouvelle qu'ils décident, mais c'est le choix souverain du peuple britannique qu'ils décident de quitter l'Union européenne. Je pense que nous sommes plus forts ensemble, notamment pour relever tous les défis que j'ai évoqués au long de cette émission. Si les Européens, ensemble, n'exportent pas de la stabilité autour d'eux, et notamment de l'autre côté de la Méditerranée, nous serons obligés d'importer de l'instabilité. Tous ces défis-là, le désordre des marchés financiers que Madame Lagarde, Christine Lagarde, dénonçait à travers la fragmentation des marchés il y a quelques jours, tout cela concerne le Royaume-Uni. Et les Anglais sont devant la même question que nous. Est-ce qu'on relève ces défis ? Est-ce qu'on se protège mieux seul, en tant que Royaume-Uni ou en tant que France ? Ou alors ensemble. Et j'espère que la réponse qu'ils apporteront souverainement, librement, sera de préserver cette réponse commune, ce qui n'interdit pas de corriger ce qui doit l'être à Bruxelles. Il y a plein de choses à corriger, il y a plein de nouvelles politiques, j'en ai parlé, à lancer. On peut mettre moins de bureaucratie ici et plus de démocratie, mais le fond des choses, c'est comment dans les 20 ou 30 ans qui viennent, on reste fort, on défend son modèle, on défend ses intérêts et ses valeurs. Est-ce que c'est chacun chez soi, chacun pour soi ? Dans ce cas, ma conviction, c'est qu'on sera définitivement sous-traitant et sous influence des autres grandes puissances. Donc, prenons un autre exemple que je connais bien, celui de la City. La City, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, positivement travaillé, puisque j'ai présenté 41 lois de régulation financière en 5 ans. Pour 39 d'entre elles, nous sommes parvenus à un accord avec les Anglais. Ils ont été on board, comme on dit. Cette place financière, la City, c'est la porte d'entrée principale de tous les investissements étrangers en Europe. Si vous mettez la porte d'entrée en dehors de la maison, c'est plus une porte d'entrée. Et c'est exactement le problème qu'ils ont et qu'ils ont à affronter, une des questions qu'ils ont à traiter dans ce référendum.
Éric Scholl, Courrier International.
Pour bien comprendre les conséquences d'un éventuel Brexit, projetons-nous au 24 juin au matin, c'est-à-dire le jour d'après, après le référendum. Que se passe-t-il et que surtout, que peut décider la Commission européenne dans un sens comme dans l'autre ? Soit le Royaume-Uni décide de rester, soit il part. Qu'est-ce que peut faire la Commission européenne ?
Ce sont deux situations extrêmement différentes. Si, comme je l'espère, les Britanniques décident de rester dans l'Union européenne, ils garderont un certain nombre de spécificités. Ils ne sont pas dans la zone euro, ils ne sont pas obligés d'y être. Ils ne sont pas dans Schengen, c'est une île, de manière assez durable. Donc, ils gardent leurs spécificités et on a trouvé un accord avec eux pour adapter certaines politiques. Si il faisait un autre choix, c'est une situation nouvelle, et je pense une longue période de plusieurs années d'instabilité pour toute l'Europe. On entre dans un théâtre inconnu, il y a des textes qu'il faudra appliquer, quel statut ce pays qui sortirait de l'Union européenne pour la première fois aurait. Les Anglais ont un problème avec l'Europe, ils ne sont pas les seuls, nous en avons un aussi. Et j'observe une grande différence, ils ont traité ce problème par le débat, en prenant le risque d'un référendum. Nous le traitons par le silence. Je suis très frappé de voir tant d'hommes politiques français, de droite, de gauche et d'ailleurs, raser les murs, avoir l'Europe honteuse. Nous ne proposons pas grand-chose. Et donc, j'aimerais bien qu'à la faveur du débat présidentiel qui va commencer dans notre pays, on ouvre le débat sur l'Europe sans complexe, même s'il est difficile ou parce qu'il est difficile, qu'on marche au milieu de la route, qu'on écoute les Français, ceux qui ont voté non en 2005. En 2005, nous avons eu une première alerte aux Pays-Bas et en France avec le non au référendum, et c'était avant la crise financière. Donc ce problème avec l'Europe, il date d'assez longtemps. Mais comment on le traite ? En corrigeant ce qui doit être à Bruxelles, en menant de nouvelles politiques, en refaisant de la preuve de l'utilité de l'Europe sur la sécurité, l'immigration, l'emploi, la croissance, mais aussi en ayant un débat public, en parlant de l'Europe, pas en ayant peur d'en parler.
Michel Barnier, il y a justement un dirigeant politique qui croit à l'Europe, mais il n'est pas européen, il est américain, vous l'avez évoqué, il s'appelle Barack Obama. Il était il y a quelques jours à Hanovre, en Allemagne, où il a prononcé un plaidoyer très européen. Barack Obama.
Say to you, the people of Europe, don't forget who you are.
C'est pourquoi je vous le dis, peuple d'Europe, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes les héritiers d'un combat pour la liberté. Vous êtes les Allemands, les Français, les Néerlandais, les Belges, les Luxembourgeois, les Italiens, et oui, les Britanniques qui se sont élevés au-dessus des vieilles divisions et ont mis l'Europe sur le chemin de l'Union. Vous êtes les Polonais de Solidarnosc, les Tchèques et les Slovaques qui ont mené une révolution de velours. Vous êtes les Lettons, les Lituaniens et les Estoniens qui se sont donné la main pour former une grande chaîne humaine de la liberté. Vous êtes les Hongrois et les Autrichiens qui ont cisaillé les frontières de barbelés. Et vous êtes les Berlinois qui, en cette nuit de novembre, ont enfin abattu ce mur. Vous êtes les habitants de Madrid et de Londres qui ont défié les attentats et refusé de céder à la peur. Et vous êtes les Parisiens qui, sous peu, vont rouvrir le Bataclan. Vous êtes les habitants de Bruxelles, rassemblés sur une place au milieu des fleurs et des drapeaux, parmi lesquels ce Belge qui a lancé un message. Nous avons besoin de plus, plus de compréhension, plus de dialogue, plus d'humanité. Ce que vous êtes, unis, ensemble, vous êtes l'Europe, unie dans la diversité, guidée par les idéaux qui ont éclairé le monde, et plus fort encore quand vous êtes unis.
Michel Barnier, ils ne sont pas si nombreux que ça, les dirigeants européens capables de prononcer de tels mots.
Mais j'aimerais bien que chez nous, en Europe, on ait le courage, l'audace. Les occasions ne manquent pas de prononcer de tels mots. Parce que je n'ai pas un mot à retirer de ce que je viens d'entendre dans la bouche du président Obama. Et j'étais très ému de retrouver cette phrase rappelant, par exemple, un événement qui, moi, m'avait touché aux larmes, qui était cette chaîne humaine entre Vilnius, Riga et Tallinn. C'était d'ailleurs quelque temps avant, je me permets de le rappeler, où ces trois États baltes, qui étaient d'ailleurs quelques années plus tôt des provinces russes,
on est en 1991.
Revenus à l'indépendance, à l'autonomie, entrant bientôt dans l'Europe, sont revenus pour la première fois avec leur propre drapeau dans la famille olympique. C'était d'ailleurs à Albertville en 92, lorsque j'ai eu le grand honneur avec Jean-Claude Killy et tant d'amis d'organiser les Jeux olympiques, les derniers Jeux olympiques que la France a organisés, c'était les Jeux d'hiver. Ces trois États-Bas sont revenus sous une ovation avec leur propre drapeau. Et c'est très émouvant parce que cette chaîne humaine, moi, elle m'avait ému comme tant d'événements liés au peuple d'Europe centrale qui se sont libérés du joug communiste. On parle du 9 mai demain, je parlais tout à l'heure de la déclaration de Robert Schuman. Qu'est-ce qu'il disait Schuman le 9 mai 1950 ? L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Et donc ce que dit le président Obama, ce que je peux dire plus modestement, c'est si nous prenions le risque de défaire l'Europe, plutôt que de la corriger, plutôt que de la transformer, plutôt que de la réformer, si nous prenions le risque de la défaire, de la laisser se défaire, alors nous aurons à nouveau la guerre. Nous n'aurons plus la démocratie forcément partout, nous aurons de l'insécurité, de l'instabilité. Et surtout, comme le disait le président Obama, plutôt que d'être forts ensemble, nous serons faibles chacun chez soi. Et dominé, je le répète, sous-traitant de l'influence américaine, justement, et de l'influence chinoise.
Mais moi, pourquoi j'ai pas envie qu'on soit. En 70 ans, on n'a pas réussi à construire, mieux que cela, une identité européenne, Michel Barnier?
Parce qu'il y a manqué du débat démocratique, il y a manqué de l'explication avec les citoyens, de l'écoute aussi. Peut-être trop de gens à Bruxelles ont-ils été trop sûrs d'eux, trop sûrs de bien faire, et ils font souvent bien, mais pas assez en écoutant les gens, en expliquant. Encore une fois, je suis très frappé de voir le silence sur l'Europe dans notre pays. C'est pas possible que 50 ou 60% des textes, des normes, des standards sont élaborés par nous avec les autres. Pas par les autres, contre nous, par nous avec les autres. Nous n'expliquions pas, nous ne débattions pas des questions européennes. On ne marche pas au milieu de la route et ça, c'est une faiblesse. Et on ne construit pas une identité européenne par en haut, elle ne tombe pas du ciel. Elle doit se construire avec les gens, avec les citoyens. C'est ça le défi d'aujourd'hui et c'est ça à quoi moi je veux consacrer mon énergie qui reste intacte, même si j'ai un certain âge maintenant, peut-être un peu d'expérience. Je garde la même capacité d'enthousiasme et la même capacité d'indignation que lorsque j'avais 20 ans.
Merci Michel Barnier d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Se reposer ou être libre. C'est ce que vous avez magnifiquement illustré aujourd'hui. Sous-titré évidemment Un choix européen. Il est paru chez Gallimard. Merci Eric Scholl, Courrier International. Réalisation audio Victor Ouvrard. Pour retrouver le podcast ou la vidéo de cette émission RFI.fr ou les applis mobiles mais gratuites de RFI sur la page internet de Carrefour de l'Europe. D'autres infos évidemment et on reste en contact via les réseaux sociaux Facebook ou Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Autour de la question.